même. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et en rediffusion à 18h. Un jeudi par mois, vous le savez, on reçoit le réseau paysan CIVAM du Finistère. En novembre, c'est le mois de l'installation agricole, sujet ô combien crucial car si plus personne ne cultive ou n'élève, que mangera-t-on demain ? Actuellement, la proportion est d'une installation pour 3 départs dans l'agriculture. Donc, les actrices et acteurs du monde agricole proposent des visites de ferme, des formations pour les candidates et candidats à l'installation. Et le CIVAM oriente sa communication, bien sûr, vers le mois de l'installation en agriculture durable. Valentin Hilleret, animateur du CIVAM, qui est avec nous aujourd'hui, propose vendredi un webinaire qui a pour titre « Quand une commune produit son alimentation, questionnons le modèle de la régie agricole locale ». Bien, c'est ce qu'on va faire dans cette émission avec un autre invité, Guillaume Figuier, qui est porteur de projet et qui souhaite s'installer en maraîchage en régie agricole locale. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, il faut peut-être expliquer quel est le principe, qu'est-ce que c'est qu'une régie agricole ?
Eh ben la régie agricole, c'est le fait qu'un territoire choisisse de produire une partie de son alimentation. Donc c'est le fait d'utiliser des terres qui sont sur le territoire de la commune ou de la Comcom ou du département, en fonction de l'échelle à laquelle on se situe, de salariés, des maraîchers qui vont utiliser ces terres pour produire. Donc une alimentation, là c'est, on parle de maraîchage, mais ça pourrait être autre chose. Donc des petits fruits, des fruitiers, on pourrait même envisager de l'élevage aussi. Et l'idée c'est que cette production soit uniquement dédiée à de la restauration collective, ou en tout cas une utilisation sans commercialisation sur le territoire.
Et la commune ou la Comcom, est-ce qu'elle doit nécessairement posséder les terres qu'elle met en régie, par exemple, ou est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres formules ?
Alors, dans les échanges qu'on a pu avoir avec les différentes villes en France qui fonctionnent en régie, en fait, on s'aperçoit qu'il y a différents modèles. Il y a une partie des villes qui ont du foncier agricole et qui, du coup, l'utilisent. Il y a aussi des gens qui font le choix d'essayer de redonner une utilité aux friches sur leur territoire. Il y a des communes qui préemptent des terrains privés pour pouvoir faire en sorte que ça soit utilisé à l'échelle municipale. Mais ça pourrait également fonctionner sur un système de bail un peu classique avec un engagement sur du moyen terme pour avoir un peu de d'avenir devant soi.
Et donc, là, par contre, les agricultrices et agriculteurs sont vraiment salariés de la commune, quoi. Enfin, c'est des agents communaux, si on veut.
Alors, le salarié de la commune directement, c'est une des possibilités. Donc, effectivement, être agent communal, comme généralement, c'est le même statut que les personnes qui s'occupent des espaces verts, quoi.
Et donc, on passe des concours ? Non, pas forcément, là. Ça n'existe peut-être pas
là-dessus,
encore.
Là-dessus, ouais, je sais pas. Peut-être un entretien. Et il y a aussi des fonctionnements un peu différents, où il y a des associations financées par des budgets qu'on va chercher auprès de la région, de l'Europe, etc. Et qui permettent du coup de financer l'association qui, du coup, indirectement, salarie les maraîchers. Quoi.
Est-ce que ça existe depuis longtemps, cette régie agricole communale en France ?
Alors en France,
ou ailleurs d'ailleurs, en Europe.
Oui, je suppose qu'il y a des équivalents en Europe, mais je ne suis pas suffisamment renseigné là-dessus. En France, c'est la ville de Mont-Sartoux, donc à côté de Nice, qui a commencé à monter la première régie en France, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc ils ont préempté 6 hectares d'un domaine avec du bâti dessus, embauché un maraîcher, commencé à mettre les terres en culture. Donc à l'heure actuelle, c'est un projet qui a vraiment une grosse ampleur. Il y a 4 personnes employées à temps plein, plus de l'insertion professionnelle. Et après donc, cette première expérience de Mont-Sartoux, il y a d'autres communes qui s'y sont mises. On parle d'une petite vingtaine de communes en France à l'heure actuelle, mais ça s'est vraiment développé sur les 3-4 dernières années où il y a un peu plus de communes qui font le choix de ce type de fonctionnement.
Et vous, pourquoi est-ce que ça vous intéresse alors d'être maraîcher en régie ?
Alors pour reprendre un peu l'historique, en fait ce projet, donc, je l'ai co-conçu on va dire, avec Antoine Autrette, qui n'est pas là aujourd'hui, mais donc avec qui je... On, réf- réfléchit sur ces questions-là, puisqu'on est tous les deux éducateurs spécialisés à la base. Donc voilà, on travaillait en foyer de protection de l'enfance sur Brest. Et en causant un peu tous les deux, et puis voilà, c'est des métiers où on vit au quotidien avec les enfants, donc aussi le temps des repas, et ben on s'apercevait qu'en fait, ces enfants-là ne mangeaient que entre guillemets, de la nourriture sur plateau. Donc le midi, restauration collective en école primaire ou en collège, et puis le soir et les week-ends, restauration collective au foyer. Cuisine qui était alimentée par des camions qui venaient livrer les aliments, cuisine centrale ensuite pour les différents services de protection de l'enfance. Et puis ensuite, on descend en cuisine, on va chercher son plateau et on remonte avec le contenu du repas. Et donc du coup, ça nous questionnait un peu sur effectivement quel sens pour l'alimentation, d'où est-ce que viennent ces aliments, quelle compréhension de ce système-là les enfants peuvent avoir, parce qu'effectivement, si c'est juste descendre, prendre un plateau, manger, puis le ramener, ce n'est qu'une partie de ce que nous, on considère comme intéressant dans l'alimentation.
C'est une déconnexion, ouais, c'est sûr.
C'est ça. Et nous, on voyait vraiment un contraste, en fait, par rapport au temps où on était hors les murs, donc en camp, en camping, en gîte, etc. Et où, du coup, on pouvait sortir de ce système de cuisine centrale et on pouvait aller dans une ferme, acheter des légumes, faire les courses avec les enfants, cuisiner avec eux, etc. Et on voyait qu'il y avait quand même un intérêt supérieur pour l'alimentation, et puis peut-être moins de gaspillage, plus d'enthousiasme, etc., sur les temps des repas, parce que les enfants avaient été partie prenante dans la confection, le choix, etc., du repas. Et donc, du coup, c'est un peu le point de départ de ce projet-là. On avait tous les deux aussi un intérêt pour les questions de maraîchage, quoi, de production. Donc, on a passé un BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, l'année dernière, à Rovec.
À Kerliver.
À Kerliver, voilà, exactement. Avec cette idée de pousser cette idée-là, c'est-à-dire de chercher un territoire, à dire à mi-chemin entre Plougastel et Brest, puisque c'est nos domiciles respectifs, qui soient susceptibles d'adhérer à ce projet de régie communale.
Et ça veut dire que vous envisagez donc de la production, bien sûr, mais est-ce que vous envisagez aussi des actions d'éducation, en fait, puisque vous êtes à la base éducateur? Enfin, comment vous voyez le fonctionnement
Nous, c'est vraiment un point qui nous paraît hyper important. Alors, à la fois, parce que je pense qu'effectivement, on a cette capacité-là à pouvoir accueillir des publics différents. Enfin, voilà, on parle de public scolaire, ça peut être de l'insertion professionnelle, du handicap. Il y a beaucoup de possibilités là-dessus. Et l'idée, nous, c'est de remettre en fait un peu la régie sur, de relier ça à la notion de territoire. C'est-à-dire de se dire que sur ce territoire, il y a plein de possibilités. On peut travailler avec les agents communaux qui vont faire l'entretien des espaces verts, la tonte des pelouses, les feuilles mortes, les branches, etc. Réutiliser ça sur la régie. Du coup, c'est un support qui est hyper intéressant, notamment dans les discussions avec les enfants, les instituts, les centres aérés, pouvoir expliquer pourquoi on fait ça, les intérêts agronomiques que ça peut avoir, les intérêts aussi, on va dire, écologiques, le fait de fonctionner en proximité, de pouvoir réutiliser directement ces matières premières-là. C'est un support qui, nous paraît hyper intéressant avec les instituts, enfin, sur un axe vraiment éducatif, sur effectivement faire un peu de biologie, comment est-ce que ça fonctionne le végétal. On peut faire des maths quand on parle de rendement, quand on parle de disposition sur les planches, etc. Donc nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et puis, l'accueil, il y a aussi pouvoir rendre concret beaucoup de choses qu'on entend à l'heure actuelle sur, j'en ai parlé un peu là, la gestion des déchets verts, la gestion de l'eau, les bonnes pratiques environnementales, etc., d'avoir un lieu où ces propositions sont mises en pratique et d'avoir quelqu'un qui a aussi la possibilité de prendre le temps d'expliquer pourquoi, quels intérêts, les inconvénients, les difficultés rencontrées, etc. Parce que le modèle de la régie, on sort du système de commercialisation. Donc dans l'emploi du temps d'un maraîcher classique, il y a quand même une bonne partie du temps qui est consacré à cette commercialisation,
ouais, que ce soit faire les marchés, tout ça,
ouais. Faire les paniers, en fonction du modèle qu'on a. Là, a priori, c'est quand même du temps qu'on peut récupérer, donc c'est aussi du temps qui peut être dédié à de l'accueil pour pouvoir effectivement prendre le temps d'accueillir une classe, une demi-classe, quelques personnes uniquement, et voilà, prendre le temps d'expliquer quelles sont les pratiques qui peuvent avoir lieu, quoi.
Et que fait le CIVAM dans ce projet? Comment est-ce que le CIVAM intervient, Valentin Hilleray?
Alors moi, j'ai rencontré Guillaume lors de ses études là. Donc nous, en tant que CIVAM, donc on accompagne des gens à l'installation, à la transmission, également sur des questions d'alimentation plus transversales avec des collectivités. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Nous, on s'est dit que c'était une opportunité de venir explorer en fait ce sujet-là, parce qu'il vient à la croisée de plusieurs choses. On a aujourd'hui des collectivités qui veulent se ressaisir de la question de l'alimentation sur leur territoire pour les raisons que Guillaume a mentionnées. Donc nous, on a été sollicités par plusieurs collectivités dans le Finistère qui se disent voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour remettre du local, etc., dans nos cantines, dans nos EHPAD, etc. Également des collectivités qui ont du terrain, qui se disent qu'est-ce qu'on peut en faire.
Voilà. Donc on veut peut-être éviter l'artificialisation aussi, tant qu'on y est.
Également. Donc voilà, on a à la fois ces demandes-là, et puis d'un autre côté, on a des porteurs de projets, toujours nombreux, qui se posent ces questions aussi, comme disait Guillaume, comment est-ce qu'on peut se dégager du temps pour faire de l'accueil sur des fermes, dépasser la simple mission de production agricole. Également des insatisfactions liées aussi à l'installation en tant que chef d'exploitation, géré classique, avec des niveaux de retraite très bas. Il y a aussi ces questionnements-là, puisqu'on accompagne principalement des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui ont une culture du salariat et qui aussi veulent rechercher des fois les avantages dans leur futur profession quoi. Donc nous, on a mis en place là, parce que c'est un projet, c'est un sujet. Il y a une vingtaine d'initiatives en France, donc il y a encore pas beaucoup de recul dessus. C'est du défrichage. Donc nous, on a pris le pari de se dire c'est une question intéressante. Tous les mouvements paysans sont pas intéressés par cette question là parce que ça touche à la question de la propriété du foncier, à l'autonomie aussi du paysan et du métier de paysan. Donc effectivement, ça pose des questions. Nous, on a pris le pari de se les poser, les questions, et de les poser directement aussi avec les élus et les collectivités. Donc, et c'est, à notre sens, une des réponses à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce que les territoires se réapproprient, les questions d'alimentation, etc. Ce n'est pas la seule réponse, mais c'est une des réponses qui permettent de trouver peut-être des solutions pour remettre de l'alimentation locale dans les circuits.
Et vous allez ensemble rencontrer les communes, comment vous faites non, c'est vous, Guillaume Figuier, avec votre associé là, qui allez au-devant des élus.
Il y a un peu de... Enfin, deux étapes, j'allais dire. Nous, de notre côté, avec Antoine, on a eu nos propres démarches. Dans un premier temps, c'était de se mettre en lien avec les communes qui fonctionnaient en régie, voir un peu par quel chemin ils s'étaient passés. Ensuite, on a cherché, dans un deuxième temps, à voir sur quelle association ou quelle institution on pouvait un peu s'appuyer. Donc, le CIVAM en a fait partie, mais il y avait aussi Terre de Liens, la MAB, institutions qui gravitent soit autour des notions d'alimentation, soit autour des notions d'agriculture biologique, et puis le côté de proximité aussi, quoi.
Circuit court.
Et voilà, dans un troisième temps, on a rencontré différentes mairies, enfin différents élus ou techniciens de mairies, donc dans les villes aux alentours. Et effectivement, voilà, le contact avec le CIVAM s'est fait dans le cadre de la formation, dans un premier temps, de manière plus informelle derrière. Et puis, donc l'idée, voilà, ça a été comment est-ce que le CIVAM et nous, on pouvait fonctionner ensemble, comment est-ce qu'on pouvait réfléchir ensemble à ces questions-là. Puisque, c'est ce que Valentin disait, effectivement, c'est nouveau, il y a un intérêt sur ces questions-là, mais il n'y a pas forcément de marche à suivre qui soit clairement tracée.
Il n'y a pas de mode d'emploi.
Et puis, c'est ce que j'essayais d'expliquer un peu, c'est qu'une régie, c'est un mot, mais qui a énormément de réalité derrière, quoi.
Oui, vous pouvez nous donner des exemples de celles que vous avez visitées, justement?
Alors, on n'en a pas visité concrètement, mais dans les échanges qu'on a eus, je pense par exemple à Vannes, qui est le seul exemple de régie en Bretagne. Ils ont fait le choix de faire donc une régie pour alimenter les crèches municipales. Voilà. Donc du coup, il y a un maraîcher à temps plein. Ils sont sur des terres municipales aussi qui sont toujours en partie utilisées pour la production de végétation ornementale. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir vraiment travailler avec les enfants, pouvoir leur faire manipuler les légumes, je ne sais pas, écosser les petits pois, ce genre de choses. Et le retour qu'ils nous faisaient, et nous, c'est un des points qu'on a pas encore abordé, c'est vraiment l'importance du travail en commun avec l'équipe de cuisine. Parce que effectivement, voilà, dans une régie, il y a la partie production, mais il y a la partie transformation et puis consommation derrière. Donc c'est vraiment important que dès le début, les maraîchers et l'équipe de cuisine puissent travailler ensemble, se rencontrer, échanger, etc., pour que on puisse partir des besoins de la cuisine, qui puisse nous dire voilà, moi j'ai besoin de tel volume sur tel légume, etc., pour voir comment ça peut être mis en terre. Comment est-ce qu'on peut les produire, quelle variété, etc. Et dans l'autre sens, que les maraîchers puissent aussi faire entendre un discours qui est de dire bah, peut-être que
quand c'est pas la saison des tomates,
37, je suis pas forcément en mesure de pouvoir t'assurer telle production, etc. Et effectivement, voilà, la question de la saisonnalité aussi. C'est pour ça que j'évoquais un peu la question de la transformation.
Oui.
C'est sûrement pas pertinent de manger des tomates en février. Je pense que ce genre de discours commence à être entendu un peu partout. Par contre, si les tomates, à la fin de l'été, il y en a des quantités importantes, on peut envisager de les transformer, d'en faire sauce tomate, coulis, passata, etc., et de pouvoir les consommer après sous une autre forme pendant le restant de l'année.
Et dans ces... dans les freins éventuels qu'ils ont pu identifier, à part donc la formation, parce que c'est vrai que cuisiner les légumes spécifiquement, ça s'apprend, mais est-ce qu'il y avait d'autres freins qu'ils n'avaient pas identifiés, des difficultés qui...
Je pense que les difficultés, elles peuvent être de deux ordres différents. On va dire, il y a une partie technique, clairement, pour la cuisine, parce que quand on est sur des circuits chauds ou des gens qui vont davantage réchauffer la nourriture que la produire sur place, il n'y a plus forcément ni l'équipement ni les compétences pour partir de produits non transformés.
Ouais, il faut réinventer sa cuisine, quoi.
Voilà, donc
ouais,
ça veut d'accord. dire qu'il faut aussi avoir du matériel adéquat pour pouvoir nettoyer, transformer, cuire, etc., les légumes. Il faut aussi avoir les compétences et l'envie du côté de l'équipe de cuisine de partir de produits non transformés et de sortir peut-être un peu des schémas qui sont dominants depuis quelques décennies. Et l'autre difficulté, je pense qu'elle est plus au niveau du choix politique et de l'engagement qui est pris ou non par les personnes en situation de responsabilité, c'est-à-dire de se dire effectivement le fonctionnement actuel qui est des appels... pour des lots de légumes, et puis on voit qui propose quoi, à quel prix, et puis traditionnellement on prend le moins cher, et on fonctionne comme ça, et c'est un modèle qui effectivement peut être questionné, et il y a un choix politique qui est fait à un moment, de se dire on va faire le choix de s'engager sur autre chose, de mettre l'argent sur peut-être du salaire, plus que effectivement des productions privées, extérieures, etc. Et je pense que c'est une difficulté dans le sens où les budgets des communes ne sont pas illimités. Et puis, ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans l'air du temps que de se réapproprier, de resalarier des services qui ont été externalisés pendant longtemps. Quoi.
Oh, ça dépend. Je crois que sur l'eau, typiquement, la gestion de l'eau, il y a des régies qui se reforment parce qu'ils se rendent compte que finalement... C'est pas inintéressant la régie, enfin je sais pas Valentin, ouais.
Non, en fait, en entendant ce que disait Guillaume, je me dis aussi que y a une partie de ces difficultés là qui ne sont pas propres à la régie agricole, mais qui sont propres à la question de l'alimentation sur le territoire, l'aspect des cuisines, des difficultés de cuisine, etc. Ça, on aura les mêmes questionnements, les mêmes freins sur des initiatives où la collectivité va beaucoup plus travailler avec des producteurs locaux. Voilà, donc après, moi, ce que j'ai senti, notamment dans le premier webinaire, c'est des freins, plutôt comme tu disais, là, les deuxièmes, avec l'aspect un peu l'engagement de la commune à prendre un risque entre guillemets financier, parce qu'on avait pas mal de questions comme ça de la part des élus chargés de mission qui se disaient est-ce que c'est rentable quoi,
c'est la question que j'osais je pensais la poser, mais dans le cas de peut-être de Mouansartou, on doit savoir maintenant si finalement c'est peut-être intéressant économiquement aussi quand même d'être en régie à force quoi.
Mouansartou, ils ont monté leur projet intégralement à budget constant. C'est-à-dire qu'ils ont gardé le budget qu'ils avaient avant quand ils fonctionnaient sur un système classique. Et petit à petit, ils ont fait évoluer les choses pour, pour arriver à leur système actuel. Donc ça n'inclut pas forcément l'achat du foncier. Ouais. En tout cas, le reste, il l'explique comme ça, a été fait à budget constant. Après,
donc ils n'ont pas perdu d'argent déjà, quoi.
Non. Ouais. Et puis après, voilà, on revient un peu sur ce que j'amenais au début. Est-ce qu'on chiffre uniquement l'alimentation ou est-ce qu'on chiffre les apprentissages? Est-ce qu'on chiffre les bonnes pratiques? Est-ce qu'on chiffre
la santé,
les coûts environnementaux cachés, etc. Donc moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'hyper actuel parce que. Voilà, là on est en période COP26, donc on parle beaucoup de l'environnement. Sur une échelle plus locale, on parle beaucoup des PLU, les plans locaux à l'urbanisation. Il y a les PAT, les plans d'alimentation territoriale.
Il y a les plans climat aussi.
Voilà, les plans climat, la trame verte et bleue. Enfin voilà, ouais, on peut lister énormément de tendances actuelles qui vont dans ce sens-là. Et quand je parlais un peu des choix politiques, à un moment, voilà, c'est de se dire, bah, effectivement. Est-ce qu'on met en place des petites choses un peu séparées, un petit projet ici, un petit projet là, ou est-ce qu'effectivement, à un moment, il n'y a pas une pertinence aussi à essayer de faire, de monter un projet qui soit un peu plus important peut-être en termes de chiffrage économique, mais qui permette aussi de rendre concret tous ces mots-clés-là. Et un des axes aussi sur lesquels nous on insiste, c'est que donc là c'est un peu plus technique, mais il y a la loi EGalim.
Oh, on en parle souvent sur Radio Évasion. Ouais.
Eh ben, très bien, ouais. Tant mieux. Donc, voilà, qui met l'accent sur l'alimentation de qualité en restauration collective. Mm. Et voilà, nous on essaie aussi de porter le discours qui est de dire plutôt que de subir cette loi EGalim et de se dire bah mince, comment est-ce qu'on va faire pour
avoir du bio à la cantine,
pouvoir cocher toutes les cases et puis qu'il n'y ait pas de souci, bah, se dire ok, on réfléchit ensemble, on met en place ce projet-là. Et au lieu de subir un peu cette contrainte, on fait en sorte que ça puisse être utilisé de manière réfléchie. Quoi.
Et positive et constructive. Et Valentin, ouais, sur cette question de la rentabilité, d'autres choses à ajouter, non sur...
Non, je pense que ça part d'une volonté des élus. Ça ne doit pas être uniquement une recherche de rentabilité économique. Quoi. Si c'est comme ça, je pense qu'il y aura des difficultés à développer ce modèle-là. Je pense que ça part... Il faut changer aussi sa manière de voir ce genre de projet. Je pense que le projet n'est pas uniquement de payer moins cher.
Mais ceci dit, sur la régie, sur d'autres formes, imaginons une commune qui aurait des terres agricoles qu'elle souhaiterait préserver, mais qui n'a pas, par exemple, de cantine, enfin, qui est trop petite pour avoir des... Elle pourrait très bien imaginer de vendre ses produits, enfin, et finalement de gagner de l'argent, non, avec ça. Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça serait envisageable, ça? Ça existe peut-être.
Oui, oui. Enfin, après, c'est pour ça que je parlais un peu de l'étiquette de la régie. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que ce serait une régie ou pas? Après, la logique est pertinente. Il y a aussi des communes qui essaient d'alimenter les épiceries sociales. Donc voilà. Alors est-ce qu'on parle de commercialisation ou pas? Enfin, s'il y a un tarif social, si c'est du don, c'est une autre question. Mais l'idée, moi, je trouve, c'est vraiment de pouvoir rendre cette production accessible, effectivement, à la majorité, quoi. Pas uniquement aux personnes qui ont à la fois l'aisance financière, peut-être les connaissances, voilà, pour aller se fournir uniquement chez des maraîchers bio, locaux, etc. Mais de se dire que ça peut aussi faire partie des compétences publiques. Un des maraîchers qui intervenait la semaine dernière là, parlait de la puissance publique et du fait, effectivement, de sentir cette puissance derrière lui pour être légitime à faire ce qu'il fait. Et effectivement, ça serait, nous, on trouverait ça intéressant qu'effectivement, ça puisse faire partie concrètement des actions d'une collectivité territoriale et pas uniquement laisser ça à l'initiative individuelle, que ce soit du côté du consommateur ou de l'initiative individuelle du maraîcher local qui fait choix de s'installer sur tel ou tel
commune. On a eu aussi des partenariats assez étroits, des fois dans des communes qui ont contribué à installer des gens. Yann, qui était venu témoigner ici il y a peut-être un an de ça, s'est installé sur des terres d'une commune hein, qui leur a mis à disposition ces terres-là et en plus qui les a beaucoup aidés sur la commercialisation, la remise en place du marché, la signalisation, etc. Donc c'est une autre forme et peut-être qu'à terme, il y aura plus d'alimentation, il y aura plus de production à passer dans la restauration de la commune. Mais voilà, c'est une autre forme de soutien quelque part. Voilà, c'est pour ça qu'il peut exister quand même pas mal de formes. Mmh. Et l'idée, c'est que ce soit surtout bien adapté au territoire et aux porteurs de projets qui sont intéressés.
Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, d'élevage en régie, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour...
Pas à ma connaissance, non. Ouais, il va y avoir un peu de petits fruits ou de fruitiers, effectivement, qui sont utilisés, mais après, sur l'élevage, c'est pas impossible qu'il puisse y avoir quelques poules dans un coin ou des lapins ou de voilà.
En général, dans ces projets entre guillemets innovants ou un peu nouveaux, ou comme tous les espaces tests et tout ça, on commence toujours par le maraîchage parce qu'on se dit bon, c'est plus simple. Puis au pire, s'il n'y a plus personne pour s'en occuper, bon, les légumes
ils vont pas divaguer tout seuls sur
voilà,
la route.
C'est ça. Alors que les animaux, ça fait toujours un peu plus peur.
C'est sûr. Bon, bah, merci, c'était vraiment très intéressant. Merci à tous les deux. Donc, je rappelle ce webinaire. C'est demain, de 14h à 15h30, sur la régie agricole communale, à destination donc, des élus, des techniciennes et techniciens, des gens, des porteuses et porteurs de projets, ou même des curieuses et des curieux. C'est gratuit. Il faut s'inscrire auprès de Valentin Hilleret du CIVAM du Finistère. Le CIVAM qu'on retrouvera très bientôt sur Radio Évasion. C'est dans 15 jours, je crois. C'est le 9 décembre.